Radio Prague, les informations. Bonjour, le nouveau président américain Barack Obama sera probablement en visite à Prague en avril prochain. La conférence des rabbins européens à laquelle ont participé 300 chefs religieux s'est achevée à Prague. Et enfin en football, Michel Platini, président de l'UEFA, sera en République tchèque ces vendredis et samedi. Le président des États-Unis nouvellement élu, Barack Obama, devrait effectuer une visite en République tchèque, probablement le 2 avril prochain, soit la veille du début du sommet de l'OTAN. L'information a été communiquée jeudi par l'ambassadrice tchèque auprès de l'Union européenne. Dès le résultat de l'élection présidentielle américaine connue, la République tchèque avait fait savoir qu'en tant que pays président de l'Union européenne, elle entendait organiser à Prague une rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres et Barack Obama. Ce dernier remplacera George Bush à la Maison-Blanche le 20 janvier. Politique toujours, le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg a reçu son homologue croate Gordan Jandroković ce jeudi. L'occasion pour le chef de la diplomatie tchèque de rappeler que l'intégration de la Croatie et plus généralement des pays des Balkans à l'Union européenne était une des priorités du gouvernement en matière d'affaires européennes. Karel Schwarzenberg a également répété que l'élargissement de l'Union européenne était possible sans que le traité de Lisbonne soit ratifié. La Croatie est le principal pays candidat actuellement à une adhésion à l'Union européenne. Zagreb devrait achever ses négociations avec Bruxelles dans la seconde partie de l'année prochaine. L'augmentation de la production d'électricité par les centrales nucléaires devrait permettre de baisser le prix de l'électricité et de réduire les émissions d'oxyde de carbone. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mirek Topolánek à l'occasion de la tenue à Prague mercredi et jeudi d'une conférence sur les économies d'énergie. Le chef du gouvernement a également fait savoir qu'il estimait que le développement de la production d'énergie nucléaire devrait être soutenu lors de la création de ce qui est appelé le mix énergique en République tchèque. Mirek Topolánek estime que les centrales nucléaires, à la différence des sources renouvelables, représentent une source flexible s'adaptant bien aux fluctuations de la demande d'électricité. Les représentants de la conférence des rabbins européens qui siègent depuis mardi à Prague considèrent la capitale tchèque comme une ville sûre et culturelle. Fondée en 1956, la conférence des rabbins européens regroupe les rabbins d'une quarantaine de pays. Sa tenue à Prague en présence d'environ 300 chefs religieux venus également d'Israël et des États-Unis correspond au 70e anniversaire de la nuit de cristal. En Allemagne, la conférence longue de 3 jours s'est achevée jeudi. En football, Michel Platini sera en visite à Prague ces vendredis et samedi. Il s'agira de sa première visite en République tchèque dans son rôle de président de l'Union européenne de football. Vendredi après-midi, un des plus grands joueurs de l'histoire du football français sera reçu par le vice-premier ministre chargé des affaires européennes, Alexandra Vondra. Les deux hommes discuteront de la prochaine présidence tchèque de l'Union européenne et des missions qui en découlent pour la Fédération tchèque de football. On termine avec un mot de météo après la dissipation de quelques brumes matinales. C'est un temps variable avec de franches éclaircies qui règnent sur la majeure partie du territoire vendredi, jour de la fête des Savas. Les températures se situent entre 5 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Le gouvernement tchèque a présenté mercredi le logo officiel de sa présidence de l'Union européenne. Dernier repos digne pour les soldats allemands tombés sur le territoire tchèque. La salle espagnole du château de Prague a applaudi debout la mezzo-soprano Magdalena Kožená. Tels sont les titres de cette émission préparée pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le gouvernement tchèque a présenté mercredi le logo officiel de sa présidence de l'Union européenne qui commence le 1er janvier. Pas de polémique cette fois-ci, après le goût amer laissé par la précédente campagne nationale, le logo est une suite colorée de lettres et de chiffres formant l'adresse internet de cette présidence, eu2009.cz. Alexis Rosenzweig pour plus de détails.
Le gouvernement tchèque avait voulu la jouer fine pour la campagne nationale sur sa présidence avec un slogan aigre-doux à double sens qui n'avait pas fait rire tout le monde. Pour ce logo, destiné à être vu cette fois dans toute l'Union, Prague a choisi de faire simple. Il faut dire que les choses sont assez compliquées comme ça, surtout quand le président de la République, Václav Klaus, crée la polémique lors de ses déplacements à l'étranger. Le récent déplacement en Irlande de celui qui se considère désormais comme un dissident de l'Union européenne a en effet fait couler beaucoup d'encre. Klaus n'était d'ailleurs pas rentré de Dublin quand le logo tchèque a été présenté à la presse par le vice-premier ministre en charge des affaires européennes, Alexander Vondra. On l'écoute.
Odráží vlastně dvojí moto. Jedno moto, které my jsme si pro naše předsednictví zvolili.
Ce logo renvoie à deux slogans, à celui que nous avons choisi il y a quelque temps déjà, l'Europe sans barrières, et à un autre slogan européen qui est l'unité dans la diversité.
Et le nouveau logo a été choisi parmi 350 propositions, pas moins. Il sera imprimé sur tout le merchandising de la présidence, ça veut dire les cravates, les stylos et toute autre joyeuseté. Et il pourra être vu aussi sur certains avions de la compagnie aérienne CSA. Sur les affiches présentées mercredi, les personnalités de la dernière campagne et le morceau de sucre restent, mais pas le slogan controversé, celui qui pouvait vouloir dire aussi « nous allons en faire baver à l'Europe ». Et avant d'être assailli de questions sur le comportement du président Václav Klaus, le Premier ministre Mirek Topolánek a quand même eu le temps de préciser les priorités de la présidence tchèque, des priorités qu'il a résumées en 3 E, économie, énergie et Europe et monde. L'économie pour les solutions à la crise financière, l'énergie pour la sécurité énergétique et le changement climatique, et Europe et monde pour les relations de l'Union européenne, notamment avec l'Est et avec les Balkans.
Le mercredi 12 novembre, un triste transport est arrivé au cimetière municipal de la ville de Cheb, tout à l'ouest de la Tchéquie. Plus de 5000 boîtes en forme de cercueil y ont été déposées. Elles contiennent les dépouilles mortelles des soldats de la Wehrmacht qui ont trouvé la mort sur le territoire tchèque durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet est développé par Alain Slivinski.
C'est par une cérémonie de piété des prières récitées en tchèque et en allemand qu'ont commencé les funérailles des soldats de la Wehrmacht. L'ambassadeur de l'Allemagne à Prague, Helmut Elfelkämpfer, et le conseiller du ministre des Affaires étrangères, Tomáš Kosta, étaient aussi présents. Après plus de 60 ans, ces soldats allemands reposeront au cimetière militaire de Cheb, où leurs dépouilles mortelles ont été transportées à l'initiative de l'Association populaire allemande pour l'entretien des tombes militaires. Cette association a fait exhumer les dépouilles mortelles des soldats allemands, éparpillées un peu partout en Tchéquie, et leurs ossements ont été entreposés pendant quelques années dans une ancienne usine à Ústí nad Labem, et ensuite sur le terrain militaire des Brdy. La presse en a fait la critique, et c'est la ville de Cheb qui a offert un terrain voisin de son cimetière pour aménager un cimetière militaire. Le maire de Cheb, Jan Svoboda, nous explique pourquoi.
Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Pour moi, il s'agit du respect envers l'être humain en tant que tel, envers les dépouilles mortelles des humains. Je suis heureux que les dépouilles mortelles des soldats allemands trouvent enfin le repos.
Le maire a encore ajouté que pour les vivants, c'est un nouveau pas qui tire un trait sur la Seconde Guerre mondiale et développe les rapports de bon voisinage. Il a reconnu qu'il comprenait que l'aménagement du cimetière était une chose très sensible pour ceux qui ont vécu les horreurs de la guerre, mais il les a appelés à la tolérance et a concédé le calme à ses soldats. Sur les plus de 5000 dépouilles, on ne connaît l'identité que de seulement 1322 personnes. Pour cela, chaque tombe ne possédera pas sa croix, comme nous l'explique encore le maire de Cheb, Jan Svoboda.
Ce seront de simples croix en pierre où seront inscrits les noms. Sur une croix, il y aura 8 noms, et si vous divisez le chiffre 7800 par 8, vous obtenez le nombre de croix qu'il y aura dans le cimetière.
En effet, le nombre total de dépouilles de soldats allemands qui reposeront au cimetière de Cheb sera de 7800. Mercredi, les 450 premières ont été enterrées à 80 cm de profondeur. L'année prochaine, le cimetière sera terminé et dominé par une grande croix. Les frais de son aménagement, d'un montant d'environ 1 million d'euros, sont supportés par la partie allemande. Celle-ci contribuera aussi à un aménagement partiel du cimetière municipal. Officiellement, le cimetière militaire de Cheb est destiné à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Lundi, le 17 novembre, est un jour férié en République tchèque, décrété journée de lutte pour la liberté et la démocratie. Radio Prague vous proposera une émission spéciale qui, à travers des témoignages d'archives, nous plongera dans l'atmosphère exceptionnelle des journées de novembre il y a 19 ans, qui ont conduit à la chute du régime communiste au pouvoir en Tchécoslovaquie pendant 41 ans. Des chansons qui ont accompagné la révolution de velours feront aussi partie de cette émission. En voici un petit avant-goût.
Bien que les jeunes aient gardé le calme, une intervention brutale allait se produire. Parmi les victimes, une étudiante de Prague.
Le policier s'est tourné vers le bus qui a amené des renforts en criant « Vite, passez-moi la matraque !» Leur réaction n'a probablement pas été assez rapide et quand il s'est donc approché de moi, sans matraque, il m'a donné d'abord une gifle, puis m'a tiré par les cheveux, m'a battu à la tête et m'a balancé contre un réverbère. Je ne pouvais plus me tenir debout et je suis tombé par terre. Les gens ont crié « Ça suffit, arrêtez !»
Ce mardi, le public de la salle espagnole du château de Prague a applaudi debout le récital de la mezzo-soprano Magdalena Kožená, aujourd'hui sans doute la cantatrice tchèque la plus prisée dans le monde. Cette célébrité a cependant un désavantage pour le public tchèque, car Magdalena ne chante que rarement dans sa patrie. Au programme du récital, il y a eu des mélodies qui figurent sur le dernier disque de Magdalena Kožená, lancé par le label Deutsche Grammophon. Le disque intitulé « Chansons que m'apprenait ma mère » peut être considéré comme une invitation dans la vie intime de la chanteuse. Elle explique qu'il s'agit des chansons que sa mère lui chantait quand elle était enfant et aussi de celles que la jeune Magdalena entendait lors des fêtes villageoises. « Ma mère n'est pas chanteuse professionnelle, dit-elle, mais elle aimait beaucoup chanter et connaissait beaucoup d'airs. La tradition de chanter des chansons aux enfants est à mon avis beaucoup plus forte dans notre pays qu'en Europe de l'Ouest. Je me souviens que c'était vraiment important au sein de chaque famille que ces chansons soient transmises et enseignées aux enfants. » La salle comble du château de Prague a donc entendu dans la soirée de ce mercredi des airs populaires de la région de Téchin ou les airs folkloriques moraves recueillis jadis par Erwin Schulhoff et Leoš Janáček, mais aussi des recueils de mélodies de Petr Eben et de Vítězslav Novák. Dans la seconde partie de la soirée, le public a applaudi des mélodies de Bohuslav Martinů et la soirée a été couronnée par les mélodies tziganes d'Antonín Dvořák avec l'air célébrissime « Quand ma vieille mère m'apprenait à chanter ». Ceux qui aiment l'art de Magdalena Kožená pourront retrouver une grande partie de ce répertoire sur le disque de la Deutsche Grammophon. Lors d'une petite interview réalisée avant le récital, la chanteuse a cependant confié à la télévision que le disque en général est aujourd'hui un article qui se vend mal. Écoutons-la.
À l'heure actuelle, il est bien difficile de vendre des disques, et surtout les disques avec un répertoire comme celui-ci, c'est-à-dire des mélodies tchèques qui ne sont pas connues dans le monde. D'autre part, je dois dire que le public étranger attend un peu de moi que je lui propose un tel répertoire.
Les inconditionnels pragois de Magdalena Kožená auront l'occasion de réentendre sa voix inimitable encore avant la fin de cette année. À la mi-décembre, elle chantera dans la salle du Rudolfinum trois fragments de l'opéra Juliette ou la clé des songes de Bohuslav Martinů. Ce sera une redécouverte de ses œuvres considérées jusqu'à présent comme perdues et aussi le début d'une série de manifestations intitulée Martinů Revisited. Ce sera aussi la préparation de Magdalena Kožená pour un concert qui aura lieu en mars à Londres et lors duquel elle chantera le rôle titre dans une version concert de l'opéra Juliette de Martinů avec l'orchestre symphonique de la BBC placée sous la direction de Jiří Bělohlávek. Mais revenons encore au dernier disque que Magdalena a réalisé avec le concours du pianiste Malcolm Martinů. Même ceux de nos auditeurs qui n'ont aucune notion de la chanson tchèque reconnaîtront sans doute cette mélodie. C'est donc avec la voix de Magdalena Kožená que prend fin ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé par la section française de Radio Prague et présenté par Václav Richter. Mais ce n'est pas tout, notre émission se poursuit.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
En ce mois de novembre, Radio Prague propose à nouveau une interview en deux parties avec la grande dame de la photographie classique tchèque humaniste, Dana Kendrova. Cette femme aux cheveux au beurre et au physique intéressant qui impressionne par sa présence et sa douceur s'est aventurée par exemple en Estonie où elle a pris de précieuses photos à l'intérieur du cloître orthodoxe Pyurtitsa, en Ukraine subcarpatique ou en Russie où elle a photographié le déroulement d'un des plus importants pèlerinages religieux en Russie dont le trajet est de 150 km. Elle n'a pas hésité à passer des journées entières et des soirs dans la rue, parmi les sans-abri de Prague, pour en prendre des photos exceptionnelles. Dana Kendrova a à son actif plus de 70 expositions, non seulement en République tchèque, mais également à l'étranger. Parmi d'autres, citons la Side Gallery à Newcastle en Grande-Bretagne, la Galerie Feudec Lorient en France, la Maison de la Culture Mont-Royal à Montréal, Torre Medievale Moggio Udinese en Italie, les centres tchèques à Londres, Paris, Stockholm et à Budapest, la Galerie Manès à Prague en fait également partie. Ces photos font partie par exemple des collections du musée de l'Élysée à Lausanne, en Suisse, de la Side Gallery de Newcastle, de la Bibliothèque nationale de Paris et du musée des arts décoratifs à Prague. Dana Kendrova réalise ses photos uniquement en noir et blanc, ce qui fait bien ressortir les sujets qu'elle choisit. Ses études à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague, où elle a étudié entre autres le français et le russe. Puis, pendant plus d'une dizaine d'années, elle a donné des cours à la chaire des langues de l'université technique et de l'académie de musique, des arts dramatiques et du cinéma à Prague. Depuis 1992, elle est photographe freelance. J'ai invité la photographe Dana Kendrova à l'antenne. Bonjour.
Bonjour.
Quand est-ce que vous avez pris en main un appareil photo pour la première fois?
J'avais 18 ans.
18 ans. Vous avez voulu étudier la photographie à l'Académie de musique, des arts dramatiques et du cinéma. Vous avez même suivi un cours préparatoire chez Jan Schmock, mais finalement vous avez renoncé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Au lycée, j'avais deux copains qui voulaient poursuivre ses études à l'Académie. Alors, j'étais amoureuse d'eux. Alors, je me suis dit, je vais aussi faire ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à photographier, à vrai dire. Et j'ai suivi les cours avec eux, mais là-bas, le système à l'époque était surtout la photo artistique, disons, et moi, je préfère la photographie documentaire, et à l'époque, à l'Académie des Arts, il n'y avait pas ça, alors je me suis dit après 3 mois que je ne vais pas suivre mes études là-bas.
De toute évidence, vous donnez la préférence à la photographie noir et blanc, pour quelles raisons?
Je pense que pour la photo humanistique, c'est beaucoup plus intéressant parce que si vous regardez ces photos, si c'est en couleur, alors il y a un danger que ça peut être un peu superficiel parce que vous vous concentrez à la couleur, mais pas sur le sujet même. Alors pour ces sujets qui concernent les problèmes humanistiques, moi je pense que c'est beaucoup mieux.
Et quel type d'appareil photo vous utilisez de préférence?
J'utilise un vieux Canon et aussi Leica.
Et qu'est-ce que vous pensez de la photographie numérique? Tout le monde fait la photo numérique, tout le monde aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pourquoi pas? Moi, j'ai aussi un petit truc comme ça. Mais c'est seulement pour faire des documents de mes copains, comme ça. Mais si je travaille sur mes projets, alors je préfère l'appareil... comment dirais-je, analogue.
J'estime que les endroits en Russie, en Ukraine, en Subcarpathie sont des régions assez attachées aux traditions et les gens sont probablement relativement fermés. Avez-vous eu des problèmes pour les photographier?
Non, pas tellement, parce que c'est ce qui est très important pour moi, c'est la langue. Alors, je parle avec ces gens, alors c'est... Il y a des moments qui sont difficiles, mais c'est partout, non seulement en Ukraine ou en Russie. Alors, c'est un peu la question aussi psychologique, ça dépend de la situation, pas de problème.
Comment est-ce que vous avez fait pour entrer dans le fameux cloître Pyurtitsa en Estonie? C'est tout de même un endroit assez fermé, il doit être déjà difficile d'y entrer et encore plus d'obtenir l'autorisation de photographier.
Bien sûr, j'ai contacté le chef de l'église orthodoxe tchécoslovaque, monsieur Krzysztof, et il m'a aidé d'y entrer, il a écrit une lettre, alors je suis venue là-bas, j'ai reçu la bénédiction de madame Varvara qui était chef là-bas, alors j'avais permission comme ça de photographier. Mais quand même c'était difficile parce que la sœur, pas toutes, mais n'étaient pas tellement d'accord.
Voilà, mes chers auditeurs, c'était la première partie de l'interview avec la célèbre photographe Dana Kindrova. Et pour la prochaine fois, nous allons suivre la seconde partie de cette interview.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre patience. Nous espérons vous retrouver bientôt à l'écoute de nos émissions. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter aussi sur Internet www.radio.cz/fr. À bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430.